Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 12 mai 1401 du calendrier iranien, 4 octobre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'ennemi est en colère contre les progrès de l'Iran, malgré toutes les sanctions et menaces, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. Les ennemis sont en colère contre les progrès de l'Iran, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. La réaction de l'Iran aux déclarations interventionnistes de Joe Biden. Et l'Iran rejette une fois de plus les allégations sur une prétendue utilisation de drones iraniens par la Russie en Ukraine. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien a déclaré que la participation d'un million de personnes aux manifestations contre les récentes émeutes avait déjoué le complot de l'ennemi pendant les troubles. Ebrahim Raisi a fait écho aux remarques de lundi du leader de la révolution islamique, affirmant que les États-Unis et Israël avaient ourdi le complot visant à entraver les progrès de l'Iran. Le président Raisi a ajouté que l'ennemi est irrité par les progrès réalisés en Iran malgré les menaces et les sanctions. Le commentaire d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. La diplomatie iranienne a dénoncé les propos interventionnistes du président américain. Pendant des années, les peuples du monde ont vu et voient le vrai visage des droits de l'homme américains en Palestine, en Afghanistan, en Irak, au Yémen, en Libye ou en Syrie, et même sur le sol américain, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Réagissant aux propos malveillants du président américain, le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré « Il aurait été préférable que M. Joe Biden réfléchisse un peu au bilan des droits de l'homme de son pays avant de faire des gestes humanitaires, même si l'hypocrisie n'a pas besoin d'être pensée. Le président des États-Unis devrait s'inquiéter des innombrables sanctions contre la nation iranienne, dont certains exemples font partie des crimes contre l'humanité. » Bien que les positions médiatiques de la partie américaine soient négatives dans la pratique, nous voyons qu'elle déclare son besoin à parvenir à un accord avec l'Iran pendant le processus de négociation, a déclaré le porte-parole de la Commission de la Sécurité nationale du Parlement iranien. évoquant la réunion entre les membres de la Commission de la sécurité nationale et des affaires étrangères du Parlement avec le chef de la diplomatie iranienne, Aboulfazl Amoui, a déclaré « Lors de la réunion avec le ministre des Affaires étrangères, les dernières évolutions des négociations de relance du plan global d'action conjoint ont été examinées. Selon les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, notre communication avec les parties occidentales est établie par l'envoi des messages. Nous envoyons nos messages aux Américains et recevons leurs réponses par l'intermédiaire de l'Europe. » Le Canada a imposé de nouvelles sanctions à 34 individus et entités iraniens pour des violations présumées des droits de l'homme. La liste des sanctions annoncées par le ministre canadien des Affaires étrangères comprend 25 personnes ainsi que 9 entités, dont la chaîne d'information en anglais Press TV. Cette décision intervient une semaine après que le premier ministre canadien, Justin Trudeau, s'est engagé à imposer des sanctions au gouvernement iranien. Ce n'est pas la première fois que le Canada, suiviste des États-Unis dans sa politique étrangère envers l'Iran, propose de telles mesures contre la République islamique d'Iran, avec lequel il n'entretient aucune relation diplomatique. Ottawa, dans le passé, avait mis sur liste noire environ 200 entités et individus iraniens. Ces dernières années, bénéficiant du soutien de leurs maîtres interventionnistes et impérialistes hostiles à un Iran puissant et indépendant, les éléments anti-iraniens installés en Europe et aux États-Unis s'en prennent sans cesse à la République islamique d'Iran. L'Iran a une fois de plus rejeté les allégations de l'Ukraine selon lesquelles il aurait fourni à la Russie des drones de combat pour la guerre en Ukraine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Nasser Kanani, a qualifié ces allégations de non fondées et d'invalides. Il a déclaré que la position de la République islamique d'Iran sur la guerre en Ukraine était entièrement claire et avait été officiellement annoncée auparavant, commentant les récents référendums organisés dans 4 régions ukrainiennes qui ont ouvert la voie à leur incorporation à la Russie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que Téhéran, sur la base de ses politiques de principe, insiste toujours pour respecter pleinement l'intégrité territoriale des autres pays. Il a ajouté que la République islamique d'Iran estime que toute action provocatrice qui perturbe le chemin vers la paix et la stabilité doit être évité. Et enfin, l'éminent religieux bahreïni, l'ayatollah Sheikh Issa Qassem, a déclaré que le régime de Manama avait réprimé les électeurs et les candidats pro-liberté avant les élections législatives du pays. Le Sheikh Qassem affirme que le régime au pouvoir pousse activement les gens vers l'esclavage. Il a également appelé les Bahreïnis à s'abstenir de participer au vote prévu en novembre. Il a accusé le régime des Al-Khalifa de tentative d'utiliser les élections comme un outil pour assurer son propre maintien au pouvoir. Bahreïn a mené une forte répression contre les groupes d'opposition et les manifestations depuis le soulèvement de 2011 dans le pays. Des groupes de défense des droits de l'homme ont déjà condamné le régime de Manama pour avoir fortement réprimé les militantes pro-démocratie depuis le début du soulèvement populaire en 2011. Des dizaines de Bahreïnis ont été tués et des centaines d'autres blessés ou détenus depuis lors. L'opposition et les manifestants veulent un gouvernement élu et la fin du régime d'Al-Khalifa. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous vous présenterons notre commentaire politique. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que le pays avait réussi à emprunter la voie du progrès malgré toutes les menaces et les sanctions, notant que l'avancée du pays avait exaspéré les ennemis. Le président Raisi a fait ses remarques mardi dans une allocution devant une session parlementaire sur la présentation au Parlement de Mohammad Hadi Zahedi Wafa en tant que candidat du président au poste de ministre du Travail. Nous sommes indifférents à toutes les sanctions et obstacles que l'ennemi a créés et nous nous efforçons de supprimer et de neutraliser les sanctions de manière juste et digne, a-t-il déclaré. Il a ajouté que l'ennemi sait très bien que sa soi-disant politique de pression maximale contre la République islamique d'Iran a lamentablement échoué et il a déclaré « L'ennemi admet officiellement que les sanctions n'ont pas eu d'impact sur la nation iranienne. L'ennemi est en colère contre le progrès de l'Iran », a-t-il souligné. Le président Raisi a salué la diligence du peuple iranien face au complot de l'ennemi lors des récentes émeutes soutenues par l'étranger à travers le pays, qui ont éclaté après la mort d'une jeune iranienne dans un hôpital quelques jours après s'être effondrée dans un poste de police de la capitale Téhéran. Il a déclaré que la présence de millions d'Iraniens dans les rues en soutien aux valeurs du pays et leur expression de haine envers les émeutiers ont déjoué les complots de l'ennemi. Le président Raisi a également salué les sages conseils et l'analyse du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, sur la question, affirmant que, comme l'a mentionné le leader de la révolution islamique, l'ennemi cherche à entraver les progrès de la République islamique d'Iran. Les protestations après la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans qui s'est évanouie dans un poste de police le 16 septembre et a ensuite été déclarée morte dans un hôpital, ont d'abord éclaté dans sa province natale du Kurdistan, puis se sont propagées à d'autres parties du pays, y compris Téhéran. Les manifestations sont rapidement devenues violentes, des émeutiers soutenus par l'étranger se déchaînant dans plusieurs villes, attaquant des agents de sécurité, recourant au vandalisme contre les biens publics et profanant les lieux sacrés religieux. S'adressant lundi à des cadets de l'armée à Téhéran, l'honorable Ayatollah Khamenei a sévèrement censuré les émeutes meurtrières, affirmant qu'elles avaient été orchestrées à l'avance par les États-Unis et le régime israélien. Je dis clairement que ces développements ont été planifiés par l'Amérique, le régime sioniste et leurs acolytes. Leur principal problème est un Iran fort et indépendant et le progrès de la République islamique d'Iran. La nation iranienne s'est avérée assez forte lors des événements récents et entrera courageusement en scène là où cela serait nécessaire à l'avenir, a déclaré le leader de la révolution islamique.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, l'automne s'annonce très mouvementé dans les questions sociales en France. En effet, une grande mobilisation interprofessionnelle donc voit le jour en France en ce moment même. Plus de 250 000 manifestants criant leur colère contre la hausse des prix et la baisse du pouvoir d'achat. Et donc, beaucoup s'inquiètent de ne pas pouvoir payer leurs factures cet hiver. Parallèlement à cette mobilisation, à Londres également, les mêmes mobilisations également contre donc, la hausse des prix de jamais vue depuis 30 ans. Alors, le président français essaie de calmer la rue en promettant donc, des choses, donc des promesses dont les Français sont très habitués à ne pas être tenus. Je vous invite à regarder un reportage dans ce domaine. On sera avec vous juste après. Restez avec nous, je vous prie.
La CGT a revendiqué pour cette première journée de mobilisation interprofessionnelle depuis la rentrée plus de 250 000 participants dans près de 200 manifestations en France. C'était la première journée de grève de mobilisation interprofessionnelle depuis la rentrée. La première depuis la réélection d'Emmanuel Macron en avril. Jeudi 29 septembre, plus de 200 cortèges se sont formés dans toute la France à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaires et d'organisations étudiantes et lycéennes, UNEF, FID, LMNL et la Voix lycéenne. Au total, plus de 250 000 personnes ont défilé, selon les chiffres de la CGT, alors que le ministère de l'Intérieur a de son côté dénombré 118 500 participants, avec des manifestants bien décidés à montrer leur force, alors que l'automne s'annonce mouvementé sur la question sociale. Et ce, même si Emmanuel Macron avait choisi la veille de temporiser à propos de la réforme des retraites, en ouvrant un nouveau cycle de concertation avec les partenaires sociaux et les forces politiques du pays en vue d'un projet de loi globale avant la fin de l'hiver. Parmi les principaux sites concernés, la bioraffinerie de la Mède, Bouches-du-Rhône, la raffinerie Normandie au Havre, Dodonge, Loire-Atlantique, Carling, Moselle, Faisin-Rhône et Vadel-Seine-Maritime, ainsi que les dépôts de carburant de Grand Puy, Seine-et-Marne et de Flandre-Nord. De leur côté, les gens se rassemblent dans toutes les grandes villes du Royaume-Uni pour protester contre la hausse du coût de la vie. Dans la capitale Londres, des centaines de personnes se sont rassemblées samedi pour protester contre la hausse des prix qui pèse lourdement sur le pouvoir d'achat. Les gens se rassemblent dans un certain nombre d'endroits, dont Queen's Garden et Hull City Center, pour appeler à l'action. Des représentants du Parti travailliste d'opposition et des syndicalistes prononcent des discours, manière de fustiger la situation et l'action du gouvernement. Les gens ont appelé des célébrités à se joindre à eux. Ils exigent des salaires plus élevés pour les travailleurs et des impôts pour la riche. Le coût de la vie augmente au Royaume-Uni depuis le début de 2021 et a atteint près de 10% en août 2022, du jamais vu depuis 30 ans. La crise a affecté l'accès sûr et facile à des biens et aux services pour les ménages. Avec une inflation proche de 10% et des tarifs de l'énergie qui ont doublé en un an, de nombreux ménages britanniques se demandent s'ils vont pouvoir payer leurs factures cet hiver.
Voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir. Un grand bonjour à M. Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à votre équipe, à vos téléspectateurs et bien entendu à M. Cornu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Monsieur Luc Michel, ma première question va s'adresser à vous. Alors, 200 cortèges, plus de 250 000 manifestants. Donc, c'est très rare, surtout qu'après la réélection d'Emmanuel Macron, c'est la première fois qu'on est témoin d'une telle mobilisation des manifestants en colère. Pourquoi il est passé temps donc de mois après la réélection avant d'attendre que une telle mobilisation s'effectue en France.
Il y a eu aussi un autre danger qu'il faut savoir. Le week-end passé, il y a eu une manifestation organisée par les syndicats belges à Bruxelles de presque 100 000 personnes. Les cas de la France et de la Belgique étant similaires. En fait, on fait payer aux populations les plus pauvres le coût de la guerre américaine en Ukraine. Et ce n'est pas un hasard que l'épicentre du mouvement, c'est la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne, c'est l'État qui est le plus engagé aux côtés des Américains dans la guerre ukrainienne. Il y a une paupérisation. Les pauvres, classes pauvres vont devoir choisir en Belgique, en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne entre se soigner, se chauffer, rouler ou manger cet hiver. C'est pas seulement d'ailleurs le problème de l'inflation ou de ce qu'on appelle plus gravement la stagflation qui est annoncée, c'est que le coût de tous les produits d'énergie, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, etc., le charbon, ces coûts sont montés de 10%. Les gens les plus démunis ne savent plus payer leurs factures, ne savent plus pouvoir payer leurs factures d'énergie, etc. Il y a dans la presse belge et française tous les jours des centaines de cas qui sont relatés de sociétés qui ferment parce que leur facture d'électricité est passée de 8 000 à plus de 100 000 euros. C'est un mouvement qui touche particulièrement les boulangeries qui sont grosses consommatrices d'énergie. Il y a des faillites par dizaines de milliers en France et en Belgique. Les sociétés, hier, un grand du textile français, la firme Camailleux a été mise en liquidation judiciaire hier. On a fermé les magasins français et belges. C'est évidemment le coût de la guerre en Ukraine. Il faut arrêter d'expliquer cela. On tente de nous vendre un scénario sur lequel la crise résulterait d'une mauvaise gestion. Mais en réalité, tout ça est uniquement lié aux sanctions contre la Russie qui, en fait, frappe directement les pays de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne.
Monsieur Bernard Cornu, je vois que vous donc bougez la tête en confirmant ce que Monsieur Luc Michel a dit concernant donc les coûts donc colossaux donc de la guerre en Ukraine, donc les sanctions à l'encontre de la Russie. Que pensez-vous donc de cette analyse?
Oui, comme l'a dit Monsieur Luc Michel, c'est bien l'effet des sanctions, la baisse des fournitures de gaz par la Russie, qui était le plus grand producteur et surtout distributeur de gaz vers l'Union européenne, vers les pays de l'Union européenne, a fait monter les prix. Et comme il y a un mécanisme qu'on appelle la rente depuis longtemps, entre les prix du gaz à court terme et les prix d'électricité, il y a eu un renchérissement des prix de l'électricité qui se répercute évidemment sur les clients finaux. Or, les distributeurs d'électricité qui étaient maintenant nombreux en Europe à cause de la volonté européenne libérale de libéraliser le marché de l'électricité, beaucoup de ces distributeurs maintenant doivent maintenir leurs tarifs alors qu'ils achètent de l'électricité dont les prix ont beaucoup augmenté. Donc effectivement, en France, c'est pratiquement la moitié de ces distributeurs finaux d'énergie qui sont rarement des producteurs, enfin beaucoup ne sont pas des producteurs, ils achètent de l'électricité aux grands producteurs que sont EDF ou les sociétés européennes d'électricité, et ils la revendent aux distributeurs. Donc ce mécanisme, ce système a complètement foiré. Et beaucoup de sociétés maintenant sont perdues. Donc on est obligé en Europe de revoir complètement ce mécanisme du marché, des marchés, de l'électricité et du gaz en Europe pour pallier à cette crise qui est créée à la fois par les sanctions mais aussi par le système qui avait été mis en place en Europe et qui se prétendait qu'il voulait libéraliser les marchés. Mais le système mis en place est très perturbé maintenant par la hausse massive des prix du gaz. Alors le gouvernement français a choisi de mettre un bouclier tarifaire, de ne pas prévoir plus de 15% de hausse d'énergie des factures d'énergie pour tout le grand public, tous les consommateurs. Mais en fait, cette politique n'est pas très ciblée, puisqu'en fait, les très gros consommateurs ménages, c'est-à-dire les gens riches, consomment beaucoup plus, mais ils vont avoir aussi un bouclier. Le coût de ce bouclier pour le gouvernement, pour les finances publiques, sera plus élevé. Donc, toute cette politique manque de ciblage. Et en fait, dans l'opposition française qui anime, qui appelle à ces manifestations d'hier et dans une quinzaine de jours, le 16 octobre, à Paris, manifestation nationale, il y a des divergences sur la perception, la perception de ces mesures et surtout sur les alternatives qui sont proposées, puisque notamment les écologistes disent, et à raison, que la baisse des prix d'énergie en diminuant les taxes, en diminuant, en mettant le bouclier, ne contribue pas à l'efficacité énergétique et à la sobriété. Il faut qu'il y ait un signal prix en hausse, mais il faut aussi cibler les compensations pour les ménages qui n'ont pas le choix ou qui sont les plus pauvres, en fonction de critères à définir.
Tout à fait, oui.
Toute cette politique va créer un fort débat et on en discutera lors des manifestations prochaines aussi, et notamment lors de la discussion du budget en France, pour affiner les priorités.
Absolument, M. Cornu. Alors, M. Luc Michel, bon, évidemment, le peuple français, vous avez également évoqué les Belges et même les Anglais, donc ne veulent rien savoir de la crise ukrainienne et les coûts donc, qui sont payés par le gouvernement et par le peuple en général. Ce qui est important pour eux, c'est la hausse des prix et la baisse donc, du pouvoir d'achat. Ce qui est important pour les Français et pour les Belges.
Les populations sont clairement conscientes qu'il s'agit d'un coup de la guerre en Ukraine. Il y a de plus en plus de protestations contre les sanctions contre la Russie et contre le soutien à l'Ukraine. Il faut dire, par exemple, que le dirigeant hongrois, Viktor Orban, va organiser prochainement le premier référendum dans l'Union européenne. On va demander à la population si elle veut la poursuite des sanctions contre la Russie. C'est un fait important. Nous sommes au début de la crise parce qu'évidemment, Madame Ursula von der Leyen, qui est une idiote et qui est un agent américain, ils n'ont rien trouvé de mieux que de proposer le blocage des prix de la Russie. C'est-à-dire que c'est le demandeur et pas l'offreur qui va fixer le prix du gaz. On va dire aux Russes, par exemple, vous voulez vendre votre gaz à 120 euros le mètre cube, nous allons vous l'acheter à 60. Poutine a déjà annoncé, évidemment, que dans ce cas-là, il ne fournirait plus un mètre cube de gaz. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est une méconnaissance totale de ce qu'est le marché, où le marché, c'est celui qui offre les produits, qui est le producteur, évidemment. Donc, cette mesure de l'Union européenne va encore plus augmenter le coût de l'énergie un peu partout. Les gens qui nous dirigent sont des inconscients. Ils ne font pas seulement la guerre américaine pour le compte des Américains en ruinant les Européens, ce qui est le but recherché par Washington. Mais en plus, ils prennent des mesures économiques totalement irrationnelles. L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, a appelé les populations européennes d'ailleurs à sanctionner ce qu'il appelle les politiciens idiots et irresponsables de Bruxelles.
Monsieur Luc Michel, donc vous dites que cette crise ukrainienne va affaiblir davantage l'Europe économiquement?
Le but, vous savez, les Américains dans la guerre en Ukraine, ils ont deux buts depuis le premier jour. Le premier but, c'est d'affaiblir géopolitiquement et militairement la Russie. Mais le second but, c'est fracturer les économies européennes. Vous devez savoir qu'il y a une contradiction interne fondamentale, pour parler en termes marxistes, au sein du bloc militaro-industriel occidental. C'est que l'allié géopolitique principal, les pays de l'OTAN, c'est l'adversaire économique principal, l'Union européenne. Il y a une guerre commerciale, Europe-États-Unis, depuis les années Reagan. Il y a une guerre financière du dollar contre l'euro depuis qu'a été créé l'euro. Le but donc des Américains, c'est de cette guerre commerciale qui a été relancée par Donald Trump et a été une des manœuvres, c'est d'affaiblir et de détruire les économies ouest européennes, évidemment les dirigeants de Bruxelles, qui sont des atlantistes qui ont été placés au pouvoir par les Américains, trahissent les intérêts fondamentaux de leur peuple à long terme en soutenant la politique américaine.
Oui. Monsieur Cornu, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
C'est vrai que tout cela se place dans un affrontement économique voulu par les États-Unis d'Amérique et par leur grande puissance financière qui vit, leur pays vit à crédit. La dette publique est énorme et pourtant beaucoup de pays étrangers achètent des bons du trésor américain. Donc en fait, tout leur progrès économique, toute leur richesse économique, la puissance de leur service de renseignement qui écoute le monde entier, qui génère des fake news dans le monde entier, la puissance de leur armée qui se permet de bombarder ici et là et d'entretenir des centaines de bases dans le monde, tout cela est fait avec du déficit budgétaire américain. Donc en fait, comme l'a dit Luc Michel, c'est bien la puissance du dollar, la puissance fragile du dollar qui est à l'œuvre. Et c'est là où on voit effectivement en Chine, en Russie, en Iran et dans d'autres pays une volonté de contrer le dollar comme monnaie de réserve, de créer d'autres monnaies, de financer, de réaliser des échanges économiques à travers d'autres monnaies, le yuan, la livre turque entre la Russie et la Turquie, et d'autres pays, je pense, suivront. C'est un enjeu, c'est un processus très délicat parce que le faire trop vite approuverait ceux qui détiennent des dollars, donc pratiquement l'ensemble du monde. Donc le processus ne peut aller que lentement, mais il doit être déterminé et il ne faut pas cesser de répéter que cet abus du dollar est la cause principale de leur suprématie.
Oui. Monsieur Cornu, revenons un peu à la manifestation, à cette grande mobilisation donc, des Français, plus de 250 000 manifestants, c'est énorme, donc qui crient leur colère contre la baisse du pouvoir d'achat. Donc, c'est vrai que cette crise ukrainienne existe, et l'augmentation des tarifs énergétiques existe, mais que doivent faire les Français qui s'inquiètent de ne pas pouvoir payer leurs factures cet hiver, par exemple?
Alors, les Français ont élu un président, ils ont élu aussi une nouvelle assemblée dans laquelle le président n'a pas la majorité absolue. Donc il est obligé de trouver des compromis, de naviguer à centre-droit ou centre-gauche pour arriver à rallier des votes à l'Assemblée. Cet après-midi, nous aurons d'ailleurs une discussion, un débat sur la guerre en Ukraine et dans lequel, effectivement, il y a parmi les partis de l'opposition des avis un peu divergents sur l'analyse de cette guerre, de ses causes et surtout sur les recommandations à faire au gouvernement pour arrêter cette guerre le plus tôt possible, mais dans quelles conditions, ce sera débattu cet après-midi encore une fois, et surtout comment réduire les impacts sur la société française, sur la société européenne, sur les pays du tiers-monde, des pays en développement qui ont souffert aussi beaucoup de l'effet direct ou indirect des sanctions imposées à la Russie à cause de cette invasion, mais aussi qui était la suite de combats dans le Donbass depuis 2014, suite au coup d'État survenu en
Ukraine. Monsieur Luc Michel, la réunion dont fait allusion Monsieur Bernard Cohu cet après-midi, par exemple, est-ce que vous croyez que c'est le résultat à cette grande mobilisation française contre cette colère,
Oui. En fait, on met l'accent sur quelque chose qui n'est pas prioritaire. On met l'accent sur la paupérisation des masses européennes en France, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, etc. Mais le véritable but des Américains, c'est de détruire l'industrie ouest européenne. C'est particulièrement vrai en Allemagne, où la prospérité allemande est due à une industrie qui se fournissait en gaz russe bon marché. Ce sont des sociétés qui font faillite, qui ne savent plus se produire. Cela n'est pas la paupérisation de la population. La solution qui est proposée par le système américain, c'est comme on l'a vu en Italie, c'est l'extrême droite. Madame Meloni, elle appartient à des réseaux pro-américains. Elle a fait des discours anti-Poutine. Il y a M. Ménard en France hier qui est intervenu pour attaquer la Russie. En réalité, tous ces gens, évidemment, ne feront qu'appauvrir la crise et les populations européennes se trompent en croyant trouver un refuge dans l'extrême droite. Le problème particulier de la France, c'est que, évidemment, Macron, n'ayant pas une majorité parlementaire stable, doit faire appel à la fois à l'extrême gauche de la France insoumise et à l'extrême droite de Marine Le Pen. C'est tout le drame de la France et c'est pour ça que la France est mise en avant, alors que, paradoxalement, elle n'est pas la plus touchée dans cette crise de l'énergie et dans cette crise économique.
Oui, M. Bernard Cornu, votre réaction, je vous prie.
C'est plutôt une chance pour la politique française qu'il n'y ait pas la majorité, parce que dans ce cas-là, effectivement, le président et son gouvernement doivent négocier à l'Assemblée pour faire passer leur loi. Donc, à la limite, c'est sûr que ce sera meilleur pour la France. Ça prendra peut-être plus de temps, mais il y aura moins de décisions unilatérales du gouvernement et du président pour l'économie française et pour la réponse, disons, économique et sociale à la crise générée par la guerre en Ukraine et par les sanctions. Je pense que c'est plutôt positif de ne pas avoir une majorité absolue en France cette fois-ci.
Monsieur Luc Michel, donc pour terminer, les Français qui sont dans les rues, qui ont faim, ils doivent faire le choix entre donc rouler, manger ou bien survivre. Que doivent-ils faire? Est-ce qu'ils doivent continuer cette mobilisation? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose?
Écoutez, il faut une pression sociale, évidemment, pour mettre un terme au soutien européen à la guerre américaine en Ukraine. La solution pour les économies européennes, c'était la fusion entre l'Union européenne et le bloc de l'Est. Les Russes fournissaient du gaz, du pétrole, du charbon bon marché, des terres rares, etc. Les Américains, évidemment, c'est un de leurs buts de guerre. Ils sont en train de creuser un fossé qu'ils espèrent incomblable, un nouveau rideau de fer entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. On n'aboutira à rien comme cela, évidemment. Et plus il y aura des populations mécontentes, plus on refusera de soutenir le bellicisme de l'Ukraine, évidemment. Moins les gouvernements atlantistes européens auront du soutien. Actuellement, ils ont cru, ce sont, rappelons-nous, les politiciens de Bruxelles, les gens comme Ursula von der Leyen, comme Charles Michel, comme Joseph Borrell, ce sont des politiciens non élus, non représentatifs démocratiquement. Ils sont face à eux, à des dirigeants russes élus démocratiquement et qui ont le soutien de leur population, en particulier en Ukraine, par les référendums où la population vient de se prononcer. Il y a également des référendums en Écosse. Il y a le souvenir du référendum de Catalogne. Il y a la population hongroise, etc. Tout cela, c'est la démocratie réelle, la démocratie directe contre les politiciens irresponsables de Bruxelles. Mais évidemment, plus la population sera mécontente, plus on approchera d'une solution. C'est d'ailleurs ce que souhaite Moscou. Dimitri Medvedev s'est prononcé sans aucune équivoque là-dessus. Il a appelé les populations européennes dans tous les pays à sanctionner les dirigeants atlantistes.
Bien. Monsieur Luc Michel, géopoliticien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis Bruxelles. Un grand merci à Monsieur Bernard Cornu, expert des questions internationales, qui a participé à cette émission depuis Vaucluse. Et bien ici, prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité.
Bonjour, chers auditeurs. Dans les émissions précédentes, nous avons découvert les activités de plusieurs entreprises basées sur le savoir en Iran. Dans ce programme, nous présenterons deux autres sociétés basées sur le savoir, Payment Pers Avos et Kavosh Energy Iranian. Avec une expérience de plus de 30 ans et une activité industrielle continue dans laquelle contribuent un personnel expert et des ingénieurs expérimentés, l'entreprise Payment Pers Avos propose des services d'ingénierie, de conception, de supervision et de fabrication de pièces et d'équipements industriels métalliques et non métalliques utilisés dans les grandes usines industrielles. Il fabrique des machines pour les complexes de sidérurgie ainsi que des machines liées au forage. L'entreprise, qui est active dans la province de Khuzestan, a reçu le permis d'activité en 2007 en tant que société de savoir. Les appareils et équipements de l'entreprise Payment Pers Avos comprennent une aléseuse CNC et une machine de laminage de plaques hydrauliques Saint-Hilaire. Les aléseuses sont du type des fraiseuses, mais elles ont d'autres capacités telles que le perçage profond de différentes formes. L'opération de forage consiste essentiellement à agrandir le trou foré. Cette méthode est réalisée afin d'obtenir une plus grande précision dans l'usinage des trous. L'opération d'alésage est possible dans n'importe quelle machine. Les produits fabriqués dans la société Payment Pers Avos comprennent 8 machines. Nous en apprendrons plus sur la machine de découpe plasma fabriquée à Payment Pers Avos. La plupart des matériaux de l'univers sont à l'état de plasma, comme le Soleil qui est composé de plasma. Le plasma est souvent très chaud et peut être piégé dans un champ magnétique. Mais dans une définition générale du plasma, il faut dire que le plasma est le 4e état de la matière que les connaissances d'aujourd'hui ne pouvaient considérer comme faisant partie des 3 autres états et devaient le considérer comme un état indépendant. Le plasma est composé d'électrons et d'ions, ce qui le rend très sensible à l'action de champs électriques, magnétiques et électromagnétiques internes comme externes, et ce qui rend sa dynamique en général d'une grande complexité. De nombreux phénomènes naturels entrent dans la catégorie de l'état de plasma de la matière. Certains matériaux naturels à l'état de plasma comprennent des types de flammes, la partie extérieure de l'atmosphère terrestre, l'atmosphère des étoiles, de nombreux matériaux dans l'espace, de la nébuleuse et une partie des queues de comètes et des aurores qui sont de super représentations de l'état de plasma de la matière circulant dans un champ magnétique. Découpage plasma en tant que processus de découpage à l'arc électrique, celui-ci est formé entre une électrode non consommable et le matériau. Un jet de gaz conducteur à haute température, appelé jet plasma, sert de source de chaleur. La découpe plasma convient pour tous les matériaux conducteurs électriques. En fonction des exigences et du matériau, différents gaz de coupe sont utilisés pour la découpe plasma. La découpe plasma peut être faite sur tout type de métal conducteur, acier doux, aluminium, etc. Pour la découpe plasma, l'arc électrique plasma généré est resserré par une buse spéciale. Il obtient ainsi une grande densité d'énergie, il devient extrêmement chaud et cette densité lui permet de découper des pièces. Kavosh Energy Iranian est une autre société basée sur le savoir. Cette entreprise a été fondée en 2017 en recrutant des experts universitaires et industriels afin de promouvoir et d'élargir les études et les activités appliquées de recherche et de développement. L'entreprise Kavosh Energy Iranian est active dans divers domaines de la conception, de la formation, de l'ingénierie, de la supervision, de l'optimisation de la production, du transport, de la distribution et de la consommation d'énergie. La fourniture de bandes transporteuses, la production de rouleaux de la plus haute qualité, la production de la chalumeau découpeur et la production de bus de coupe font partie des projets réalisés par la Société de Savoir. On en apprendra en détail sur certains de ces projets. La société Kavosh Energy Iranian, utilisant les connaissances d'experts expérimentés et utilisant les lignes de production de rouleaux les plus équipées, avec une capacité de fabrication de plus de 10 000 rouleaux par mois, conformément aux normes internationales et en vigueur, est en mesure de fabriquer tous les types de rouleaux avec la plus haute qualité et selon les demandes des clients. Il existe différents types de rouleaux. Le rouleau plat est recommandé pour le transfert de matériaux et pour les bandes jusqu'à 2000 mm de large. Le rouleau d'impact est utilisé pour réduire les effets et les impacts dynamiques de la grenailleuse à la bande transporteuse. Le rouleau de guidage est utilisé pour régler la bande transporteuse. La ligne de production des rouleaux de cette société, dans le but de s'en servir à long terme, répond aux besoins de diverses industries et mines, y compris les mines de sable, les mines de charbon, les industries sidérurgiques, les industries du ciment, les industries alimentaires, toutes sortes d'unités d'emballage, le recyclage, etc. Cette entreprise a beaucoup investi dans la production de nouveaux équipements et entend réaliser tous les tests nécessaires dans le but de contrôler et de réduire les pertes de temps sur le chantier des projets. Différents types de bus de coupe font partie des autres projets de cette entreprise. La buse de coupe de métal est utilisée dans la ligne de la coulée d'acier pour couper de métal d'une épaisseur allant jusqu'à 70 cm. La technologie de production de cette pièce est très complexe, de même que le matériau et l'alliage de cette pièce sont très spéciaux. Le processus de production du premier échantillon, y compris l'étude, la conception et les tests, a duré plus de 9 mois. Et à l'heure actuelle, la société Kavosh Energy Iranian est le principal fabricant de cette pièce pour l'usine d'acier Mobarake. Des caractéristiques des produits et des projets de cette entreprise et l'innovation dans la production. Réaliser des coupes de qualité, réduire l'écart du résultat des travaux de coupe sans réduire la vitesse en étudiant les changements d'angle, de perçage et les changements de son diamètre en utilisant des alliages de cuivre, en améliorant la qualité du cuivre utilisé afin d'augmenter la durée de vie utile des pièces consommables font partie des nombreuses innovations qui ont été utilisées dans ce domaine.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.